Et je vous invite à entendre deux textes, deux évangiles de Marc. Le premier au chapitre 4, les versets 35 et 41. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Et quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent, les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Il le réveille, ils lui disent « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient entre eux « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Et puis voici un deuxième récit qui fait suite à la multiplication des pains, toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 45 et suivants. Aussitôt Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïda. Pendant que lui-même renvoyait la foule, après l'avoir congédié, il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui seul à terre. Et voyant qu'il se battait à ramer contre le vent qui lui était contraire vers la fin de la nuit, il vient vers eux en marchant sur la mer et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Ils poussèrent des cris, car ils le virent tous et ils furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla, il leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur !» Il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains, leur cœur était endurci. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui est vérité et vraie nourriture. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre dans les registres bleus le cantique 429. Seigneur, tu cherches tes enfants. Je ne sais pas si ça se joue facilement à l'orgue. Voilà quelques réflexions sur ces deux récits de traversée du lac que nous avons lus. Ils se ressemblent, c'est des récits, peut-être est-ce le même récit repris sous une autre forme, peu importe, mais il y a des différences qui sont importantes. Ceci étant dit, dans ces récits, on voit que Jésus calme la tempête, qu'il marche sur les eaux dans un cas, voilà, et qu'il parle aux éléments, et qu'un miracle se produit. Le miracle, c'est le calme. Mais dans cet événement, il y a un sens qui est important, me semble-t-il, une fois qu'on a dit ce que je viens de dire, et qu'on a situé le lac avec ses tempêtes et tout le bazar, si vous voulez, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que ça signifie profondément, la première des choses. Or, ce que ça signifie profondément, c'est que Jésus, dominant le lac, et ou marchant sur les eaux de ce lac, eh bien, domine l'élément profond, la mer, au fond de laquelle se trouvent les monstres, hein, comme le dit si bien l'Apocalypse de Jean, hein, les monstres, les bêtes, les trucs affreux, tout ça, ça sort du fond de la mer, hein, à tort ou à raison. C'est comme ça, ça fait partie de la symbolique et de la manière de voir des Hébreux qui n'aiment pas trop l'eau. Vous savez, ils sont des gens du désert, il ne faut pas l'oublier. Mais aussi, le Sheol est au fond, sous terre, et aussi dans certaines mentalités hébraïques, il est aussi dans le fond de l'eau, tout ça c'est le fond, etc. Or Jésus, marchant sur les eaux ou dominant la tempête, la calmant, ça signifie que Jésus domine la mort au final. Et c'est peut-être ça qui est extrêmement intéressant, au-delà de tout ce qu'on peut décrire sur la manière dont cela se passe. Mais la question, est-ce que pour nous ça est intéressant ce récit? Est-ce que ça nous parle? Est-ce qu'on parle que de Jésus ou est-ce qu'on parle aussi de nous? Ou est-ce qu'on parle de la relation qu'il y a entre Jésus et nous dans cette affaire? Si on regarde ces textes, on voit qu'il y a d'abord un miracle. Mais on voit que le miracle, bon, Jésus en opère quelques-uns, en préside quelques-uns, mais ce n'est pas vraiment ce qui semble être le plus important. Jésus dort dans la barque avec ses disciples, donc visiblement, il ne cherche pas, a priori, à calmer la tempête. On peut faire des constatations qu'on peut faire dans le premier récit. Effectivement, il faut que les disciples soient là, le questionnent, lui disent, mais écoute, on est dans le malheur, on va couler, etc. La tempête est difficile, enfin bref. Et il réveille Jésus. Bon, c'est une chose. Et Jésus va répondre à leur demande, certes, peut-être de manière un petit peu abrupte, en leur disant qu'ils n'ont pas la foi, enfin, etc. Enfin bref, pourquoi m'avez réveillé en quelque sorte? Moi, je suis avec vous dans la barque, vous n'avez pas besoin de plus. Dans le deuxième récit, le récit fait suite à la multiplication des pains. Or, visiblement, Jésus n'a pas envie de rester. Il se retire à l'écart approprié, c'est ce que dit le texte, et il expédie les disciples de l'autre côté de la mer. C'est-à-dire qu'il les renvoie. La multiplication des pains a été faite, les choses ont été distribuées, ont été dites, Jésus ne veut pas qu'on le saisisse pour le mettre à la tête, je ne sais pas moi, d'un pays ou je ne sais pas trop quoi, enfin quelque chose comme ça. C'est intéressant dans ces affaires où on voit que Jésus dort, donc il est dans une présence absente avec ses disciples, où on le voit, qui renvoie ses disciples de l'autre côté de la mer et lui partant de son côté prier à l'écart. On voit que la tempête, elle est là. Elle est là pour tous. Elle est là pour tous, cette tempête, personne n'y échappe. Qu'est-ce que ça veut dire que cela? Bien, je pense que aussi bien Jésus que les disciples, dans leur vie, n'ont pas échappé à la tempête. Que ce soit la tempête géographique, physique, la traversée du lac, ou que ce soit une tempête qui soit à l'intérieur d'eux-mêmes, dans leur tête, face aux questions qui se posent, aux épreuves qu'ils ont à traverser, c'est le cas de le dire, aux problèmes qu'il faut résoudre, etc. Et parce que là, je crois que c'est effectivement là que se joue l'Évangile, d'une certaine manière, pas tellement dans le miracle, mais beaucoup plus dans l'attitude de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette tempête qui est là, si on essaye de la sublimer pour ses disciples et pour Jésus lui-même? Je pense que si Jésus se retire, après avoir présidé la multiplication des pains, s'il se retire à l'écart pour prier tout seul, c'est que lui-même n'est pas tout à fait au clair. Il y a une tentation qui est là. Est-ce que je reste et je prends la tête d'un mouvement, je continue à les nourrir, etc. Ou est-ce que je refuse cette manière d'être et de faire? C'est la première des tentations. Vous prenez l'évangile de Matthieu, si vous lisez les tentations, eh bien vous voyez que la première des tentations, c'est de changer les pierres en pain, précisément. Or, c'est précisément ce que Jésus va faire. C'est-à-dire, il va nourrir la foule. Mais ce que fait Jésus, au final, c'est qu'il va refuser la tentation qui consisterait à servir le diable, c'est-à-dire à servir la puissance politico-économique, là en l'occurrence, et prendre la tête de ces gens affamés pour les nourrir et après, point de suspension, en faire à peu près ce qu'on veut. Donc Jésus se retire là, à ce moment-là, exactement de la même manière que dans le récit de Matthieu à propos des tentations. Je pense que Jésus, dans son humanité, est quelqu'un qui n'échappe pas non plus à des questions extrêmement fortes, des questions de conscience ou des questions existentielles, comme on dit aujourd'hui, et qui se posent à lui, hein, ni plus ni moins. Et ça, je crois que c'est déjà quelque chose d'intéressant, c'est de se dire, ben, voilà, Jésus lui-même, eh bien, n'est pas toujours aussi zen, si je puis dire, qu'on pourrait le penser, et qu'il est comme tout un chacun, sujet à des tempêtes intérieures, à des questions intérieures qui se posent à lui, des choix qu'il doit faire, et des choix qui ne sont pas toujours très très faciles et très simples, finalement. Il y a donc cette tentation qui est là. Mais pour les disciples, que peut symboliser cette tempête, finalement, qu'il y a sur le lac, dans l'un et l'autre des récits? Il y a certainement un sentiment de solitude, vraisemblablement. Ils sont là, dans un cas, Jésus est carrément absent, puisqu'il est en train de prier de son côté après la multiplication des pains, mais dans l'autre cas, il est bien présent, mais il dort. Qu'est-ce que ça signifie, cela? C'est-à-dire que la présence de Jésus n'est pas si évidente que ça, vraisemblablement, et que dans un moment de difficulté, on se demande s'il est là. Combien on peut comprendre facilement que ces disciples qui sont, bien qu'étant des marins aguerris, pour certains d'entre eux, sont face à une tempête, on comprend qu'ils peuvent se dire, mais il nous a abandonnés, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, lui qui a multiplié les pains, il nous laisse tomber, enfin bref, etc. Donc il peut y avoir un sentiment de solitude qui est assez fort chez les disciples, peut-être de déception chez certains aussi, finalement, peut-être un même, si on va jusqu'au bout, de trahison qui sait, mais dans tous les cas, dans la tête des disciples, il doit se poser beaucoup de questions. Et si tempête il y a sur le lac, il y a sûrement tempête aussi dans leur esprit, pour des raisons qu'on comprend tout à fait bien, effectivement. L'intéressant, c'est que dans cette présence ou absence de Jésus, dans cette présence-absence, finalement, les choses vont quand même se dénouer. Dans un cas, on va le réveiller, et dans l'autre, il vient. Dans l'autre, il vient. Il vient alors qu'on ne l'a pas appelé. Et dans les deux cas, il affirme sa présence. Et c'est ça qui est intéressant. Je crois que c'est déjà quelque chose de tout à fait extraordinaire que de mettre en parallèle ces deux récits. Bien souvent, dans nos vies, on a le Christ qui est avec nous, on a Jésus qui est bien présent dans nos vies, mais on n'a pas l'impression qu'il est là présent, on a l'impression qu'il est peut-être ailleurs, qu'il est bon, et qu'il dort peut-être. Et on a bien envie souvent de le réveiller lorsqu'on est dans la difficulté. Et dans un autre cas, on a l'impression qu'il est vraiment absent, complètement absent, et qu'on est vraiment tout seul à la barre du navire pour essayer de traverser les vicissitudes de la vie. Mais Jésus vient, il vient vers ses disciples qui sont en détresse, et le calme va se faire, parce que vous avez remarqué dans le deuxième récit, le calme va se faire lorsqu'il vient dans la barque. Une fois qu'il est dans la barque, le calme arrive. Une fois que Jésus entre dans notre vie, finalement, le calme se fait. Et effectivement, ça va repartir. Ce n'est pas toujours si simple. Vous savez que Pierre, effectivement, pose quelques problèmes. Pas la première fois, d'ailleurs, ni la dernière. Mais enfin, bon, c'est Pierre. Il est comme ça, c'est son caractère. Mais il nous ressemble aussi terriblement. Alors, la question qui se pose, effectivement, lorsqu'on lit ces récits de la tempête apaisée, ou des tempêtes apaisées, effectivement, mais c'est de dire, mais quelles sont vraiment nos tempêtes? Est-ce que nous sommes vraiment dans la situation de ces disciples, ou dans un autre monde complètement différent? Moi, je crois que tout un chacun dans le monde a des tempêtes à traverser dans sa vie. Je pense... Les jeunes, par exemple, parce qu'il y en a quelques-uns ici présents, et ont certainement des problèmes à gérer, des choix à faire. C'est pas toujours simple. Il faut, par exemple, choisir ses études, savoir si on prend une section littéraire au lycée ou une section scientifique, que sais-je encore, ou économique et sociale. Enfin bref, des problèmes que vous connaissez peut-être, pour avoir entendu parler de cela chez vous, effectivement. Mais ce sont des choix qui sont pas faciles, parfois. Il peut y avoir des regrets qui sont là, ou des doutes, etc. Mais il y a d'autres problèmes qui se posent chez nos jeunes, surtout là, lorsqu'on est en pleine explosion de la vie. Est-ce est-ce que le copain là qui a l'air pas mal va penser une jeune fille, oui, mais j'aimerais bien, est-ce qu'il y a du répondant? Et le jeune garçon lui-même qui voit une belle fille là, dit, j'aimerais bien sortir avec aussi, pourvu qu'à la prochaine soirée on soit ensemble. Enfin bref, vous voyez, alors ce sont des questions qui pour les jeunes sont importantes, évidemment, c'est une question de l'amour qui est en train de naître, donc c'est fondamental. Alors c'est extrêmement intéressant, mais on peut penser à d'autres problèmes, effectivement, dans les relations avec les parents, par exemple, qui peuvent parfois être ombrageuses, ça arrive, vous le savez aussi, moi-même je le sais, évidemment, voilà. Mais on sait que nos jeunes ont des tas de questions, il faut changer de peau, il faut grandir, c'est pas simple de prendre 10 cm dans une année, comme ça arrive pour certains aussi, donc il faut s'adapter, et il y a sûrement des tempêtes qui sont là. Il y a sûrement des épreuves à traverser comme les disciples ont traversé le lac. Et je crois que c'est pour ça que finalement ce type de texte nous parle finalement. Si on sort de l'idée que on a expliqué que Jésus domine la mort, que les tempêtes sur le lac sont fréquentes, qu'elles sont très violentes, etc., et très brusques. Enfin bref, on peut toujours dire cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, si après une première lecture, on prend une lecture un petit peu symbolique, imagée, on retrouve des choses qui nous parlent finalement. Mais les personnes âgées aussi, c'est pareil, ils ont des problèmes graves à gérer. Il y a des tempêtes aussi qui sont là, ne serait-ce que les diminutions des facultés physiques, par exemple, qu'il faut gérer. La vie qui est plus courte par devant soi, a priori. Même si chaque jour est le premier jour de la vie qui nous reste à vivre, quel que soit l'âge. Mais il n'empêche que il y a des problèmes qui sont graves, et puis les soucis qu'on peut se faire pour les générations qui arrivent, pour l'avenir, que sais-je encore. Donc il y a des tas de tempêtes à traverser, et puis quand on devient âgé, les générations avançant en âge deviennent de plus en plus clairsemées, évidemment, et donc on finit par perdre des parents, des amis, et ainsi de suite, et des gens de la famille, petit à petit. Il y a des drames comme cela qu'il faut apprendre à gérer, des tempêtes qu'il faut traverser là aussi, qui sont difficiles à vivre, évidemment. Mais on pourrait multiplier aussi les problèmes. Par exemple, le christianisme, les chrétiens. Quels problèmes nous avons à gérer? Qu'est-ce qui nous secoue véritablement? Il y a bien des questions qui se posent. Comment annoncer l'évangile? Comment être percutant? Et pourquoi nous n'arrivons pas à passer un certain seuil d'écoute et de reconnaissance dans nos sociétés européennes, par exemple? Donc, le christianisme peut se poser des tas de questions. Et effectivement, on peut se dire, mais où est Jésus dans cette affaire? Est-ce que nous sommes seuls à gérer ces problèmes? Est-ce qu'il est présent? Sans qu'on s'en rende compte finalement, et qu'on a l'impression qu'il dort au fond de nos vies, ou bien est-ce qu'il est toujours celui qui vient vers nous, finalement, pour entrer d'une manière ou d'une autre dans notre vie, et puis apporter un petit peu de calme et d'espérance. Moi, je crois que finalement, ces images de la tempête apaisée, là, sont assez parlantes finalement. Dans certains cas, pour certains, Jésus... une présence évidente et manifeste, après tout pourquoi pas, une présence vers laquelle on peut se tourner facilement pour puiser une parole d'espérance, une parole d'amour, que sais-je encore. Pour d'autres, il vient lorsque la nécessité est là, il laisse la vie se dérouler dans la liberté, la responsabilité des uns et des autres, mais il peut venir vers la personne, vers la vie, et entrer dans la vie lorsqu'elle est véritablement troublée, effectivement. Peut-être la démarche la plus signifiante en ce qui nous concerne, de savoir que Dieu en Jésus-Christ vient vers le monde pour aider le monde à vivre et nous aider personnellement dans nos vies à être un vis-à-vis qui nous permet de poser les problèmes calmement, d'essayer de trouver les solutions, de trouver les portes qu'il faut franchir finalement pour avancer plus loin. Je crois que c'est important finalement de savoir que on a vis-à-vis de nous, finalement, dans le secret de nos vies, une sorte d'interlocuteur qui est là et qui nous guide et qui nous parle, mais qui nous parle essentiellement d'espérance et d'amour. Difficile de dire la confession de foi, mais la confession de foi telle que vous l'avez entendue là tout à l'heure, elle évacue, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la paternité de Dieu, tout ce qui est relatif au royaume, Jésus comme Seigneur, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais par rapport à la confession que vous avez l'habitude d'entendre ici, mais elle a gardé des choses tout à fait essentielles, hein, le fait que Jésus-Christ soit amour, précisément, hein, c'est quelque chose qui est intéressant, le fait que nous sommes dans la faiblesse, c'est aussi dans cette confession de foi, l'Esprit est là pour créer le monde et la vie, et ainsi de suite. Il y a des choses qui sont tout à fait essentielles, mais l'amour revient plusieurs fois dans cette confession de foi qu'ils ont remaniée et qu'ils ont vécue à leur manière, ces catéchumènes. Et je crois qu'effectivement, c'est parce que l'amour se révèle en Jésus-Christ qu'on peut, dans nos détresses et dans nos tempêtes, se dire effectivement, il vient vers nous avec un amour qui est plus fort que la mort, un amour qui apporte la vie, qui donne du sens finalement. Amen.